Oui, le Seigneur l'a dit, ma parole, elle est vivante. Vivante et efficace. C'est ce qu'elle peut être ce soir dans nos cœurs. Vivante et efficace. Vous pouvez lire Victor Hugo 20 fois de suite. Vous avez déjà lu Victor Hugo ? Il y a de belles choses dans Victor Hugo. Mais au bout de la 15e fois, je pense que vous allez vous fatiguer. Mais la parole de Dieu, vous pouvez la vivre, la lire tout le temps parce qu'elle est vivante. Alors, on va faire deux lectures. La première dans Hébreux, au chapitre 2. Un verset qui est une question. On va lire juste la question qui commence le verset 3. Elle revient deux fois, cette question, dans ce livre. Mais c'est bien, je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu, mais c'est bien qu'on lise ce verset. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut, c'est quelque chose de grand. Et quand l'apôtre parle de la vie éternelle, il dit, mais surtout, ne négligez pas votre salut parce que c'est quelque chose de grand. Alors, on va faire une autre lecture dans les 2 Corinthiens au chapitre 4. Il est parlé de l'évangile qui est voilé. C'est une grâce lorsqu'on voit. Je ne parle pas de la vue physique, je parle de la vue spirituelle. La Bible exprime clairement que l'évangile est voilé pour une certaine catégorie de personnes. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à verset 6. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. » C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Oui, la lumière brille et c'est ce que nous voulons. C'est Ésaïe qui a prophétisé quand Jésus allait venir, il a dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » Et Dieu veut qu'il y ait de la lumière dans notre cœur. C'est beau la lumière, vous voyez ? On serait malheureux sans lumière, non ? Au niveau physique, je ne parle pas que de la lumière physique. Hein. Si on éteignait là tout d'un coup, on serait dans le noir, il n'y a pas de fenêtre. On serait tout de suite, certains seraient paniqués. Pourquoi ? Parce que nos corps ont besoin de lumière. Mais il y a la lumière spirituelle qui nous donne de l'espérance. Cette lumière, elle doit briller. Nous sommes dans un monde plein de ténèbres. Les ténèbres s'épaississent. La Bible dit que la terre sera remplie de violence. Que le cœur des hommes est rempli de violence. On parlait tout à l'heure de ceux qui sont remplis de la grâce, de la paix, du pardon, tout ça, et ceux qui sont remplis de fureur, etc., parce qu'ils ne veulent pas de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que représente l'Évangile ? Puisque l'Évangile est voilé pour une catégorie de personnes, ce soir, vous pourriez, tiens, vous exprimer, dire, mais l'Évangile, pour moi, c'est si on questionnait les gens, qu'est-ce que c'est pour eux l'Évangile ? Parce que les gens dans la rue, l'Évangile, ben c'est moi quand j'étais pas converti, je croyais que l'Évangile c'était des contes pour les chrétiens. Vous voyez comme il y a les contes pour les enfants. Vous voyez, on va raconter l'histoire du chaperon rouge. Hein. Et bien moi je croyais que c'était une histoire inventée par les hommes pour les adultes. Je croyais que c'était ça l'Évangile. Pour moi quand j'étais pas chrétien, même si j'étais catholique, que j'allais de temps en temps à l'église, pour moi c'était une histoire religieuse. Une histoire religieuse, comme pour les enfants, comme pour les adultes. Pour moi, c'était aussi, pour beaucoup de gens, c'est pas pour moi, mais pour beaucoup de gens, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau de Dieu en général, c'est une façon de dominer le monde. On dit voilà, c'est une façon que certains ont, les religions, Dieu, ils dominent le monde. Et c'est vrai qu'on voit des choses, vous n'êtes pas d'accord, hein? Tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelle est l'idée que vous vous faites de l'Évangile. Mais imaginons que pour vous, c'est une histoire, c'est un moyen de faire pression, comme certains ont dit, c'est l'opium du peuple, c'est une façon de faire aussi, une façon d'arriver à ses fins, on le voit au travers des sectes, etc. Si l'Évangile était ça pour vous, c'est qu'il est voilé. Il est voilé. Quand quelqu'un dit, oh, l'Évangile, moi j'ai lu la Bible, ça sert à rien. Moi, vous m'avez demandé de lire l'Évangile de Jean, j'ai rien compris. Je comprends pas cette histoire. Moi, je suis catholique, je suis ceci, je suis cela. Mais voilà, vous me ferez pas changer de religion. Et tout ça, ça s'explique. Et même ça se comprend. Si quelqu'un en est là, c'est que l'évangile, il est voilé. Peut-être que vous êtes blessé, peut-être que vous êtes blasé, j'en sais rien, mais une chose est sûre, si vous pensiez de cette façon, je peux vous dire que l'évangile, il est encore voilé. Et beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, l'évangile, c'est quelque chose de voilé, pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a lu en premier, comment échapperez-vous en négligeant le salut de votre âme. Ce soir, on est là. Pourquoi ? Mais pour s'occuper du salut de notre âme. Si vous vous en êtes occupé, c'est bien. Continuez à vous en occuper, mais peut-être que vous n'avez pas été aidé. Est-ce que l'entourage, ça peut jouer dans la vie d'un homme ? Est-ce que l'entourage, ça peut jouer ? Est-ce que l'entourage peut nous empêcher de nous occuper de notre âme ? Ben oui, c'est pour ça que la Bible dit, attention, attention, vos fréquentations. Il parlait de fréquentation ? Ben oui, il en est parlé. Il en avait parlé dans les Corinthiens, justement. Peut-être que vous êtes entouré de mauvais gens et que vous aurez davantage d'efforts à faire. C'est sûr que si vous êtes entouré que de chrétiens dans votre famille, c'est une bénédiction. C'est pas pour ça que vous êtes obligé de vous convertir, parce qu'il y a des chrétiens qui rendent justement mauvais témoignages. Mais même si vous êtes entouré que de bons chrétiens, c'est pas pour ça que vous allez finir par vous convertir. Alors il y a des choix qui nous sont faits. Continuellement, il y a des choix qui nous sont faits. Une réunion, c'est un choix, même pour les chrétiens, à dire « Je ne veux pas que l'évangile soit voilé, je veux au contraire que la lumière resplendisse de plus en plus dans mon cœur. » Lorsqu'un cœur est endurci, vous connaissez des gens endurcis ? Le cœur endurci, il ne croit plus en rien. Vous parlez de pardon, ça les remplit de rancune. Vous parlez d'espérance, ça les remplit de méchanceté. Vous parlez de consolation, ils sont même capables d'être furieux. Regardez comment, quand Jésus a prêché dans la synagogue, ils étaient furieux. Parce qu'ils n'acceptaient pas la vérité. Donc, l'évangile était voilé pour ces juifs qui s'appliquaient à respecter l'Ancien Testament. La Bible dit que le cœur peut être endurci à cause de la séduction du péché. Parce qu'il y en a du péché autour de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas s'il vous faut une leçon, mais du péché, il y en a. Beaucoup de péché. Et la Bible dit que les cœurs peuvent être endurcis par la séduction du péché. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites pour nous endurcir. D'ailleurs, ça va très très loin cette affaire, puisque Jésus dit qu'à la fin des temps, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors peut-être que ça vous fait rire. Il y a des gens, quand on leur parle de Dieu, vous avez vu tout ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis un an autour de Charlie Hebdo, comment ça fait rire les gens. Comment on rit. Est-ce qu'on peut rire de tout? Et il y a même des ministres, des gens, pourtant qui ne sont pas des imbéciles, qui disent oui, on peut rire de tout. Moi je crois qu'il faut vraiment être mal en point pour dire un truc pareil. On ne peut pas rire de tout. Ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui rient. C'est vrai que la Bible dit que dans la fin des temps, il y aura des moqueurs. Et on se moque, bon, de choses. Il y a des choses qui sont risibles, donc ça on peut en rire. Mais on se moque de Dieu, on se moque de plus en plus de Dieu. Et je peux vous dire que si les gens qui se moquent de Dieu, l'évangile est voilé, ils ont endurci leur cœur et ça risque d'aller très très mal pour eux. On ne peut pas rire de ces choses, on ne peut pas rire de tout, on ne peut pas rire des choses spirituelles, on ne peut pas rire par rapport à l'éternité. C'est un grand salut et il faut que nous nous en occupions comme il faut. C'est pour ça que les gens sont malheureux. Oui, il viendra des moqueurs. Des moqueurs, il y en aura. Il y en aura de plus en plus. Hier, j'écoutais France Info. Et on a interviewé des gens par rapport à ce fameux journal satirique. Et il y a les gens qui répondaient, oh, on a besoin de ce journal. On en a besoin dans ce monde misérable. On a besoin de rire. Je pense qu'on a besoin de rire, ça c'est sûr. Il y a un temps pour rire. Ouais, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. C'est même très sain, ça y est, de rire. Mais je pense qu'on ne rit pas des choses spirituelles. On ne peut pas en rire. Et c'est pas d'aujourd'hui. Le chant parlait de ces trois croix dressées. Qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'est-ce que faisaient les soldats quand Jésus a été crucifié ? Ils se moquaient. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Les soldats se moquaient. Les magistrats, des gens qui avaient étudié, des gens qui avaient été à l'école, des gens qui étaient quand même, qui avaient un peu plus d'intelligence que les soldats peut-être, d'intelligence d'instruction, même eux se moquaient. Franchement, il faut vraiment avoir un problème. Se moquer de quelqu'un qui est en train de mourir. Est-ce que même vous vous moqueriez de votre ennemi s'il était en train de mourir ? Est-ce que vous moqueriez d'un chien en train de mourir ? Vous avez déjà vu un animal mourir ? Est-ce que vous vous moqueriez d'un animal en train de mourir ? Pour vous dire combien le cœur de l'homme, il est méchant. Les soldats, c'est écrit plusieurs fois, les soldats se moquaient de Jésus, les uns, il a sauvé les autres, les magistrats se moquaient.
ces gens justement qui auraient dû avoir un sens intelligent de la droiture, de la moralité, de la justice, puisque c'était leur boulot, eh bien aussi étaient en train de se moquer. Voyez comme quoi le monde est complètement aveuglé. Et cet éloignement, ce comportement révèle combien les gens sont éloignés de Dieu. Et ne nous moquons pas, à notre tour, de ne pas nous moquer des moqueurs. Parce que c'est trop facile de se moquer des gens qui se moquent. C'est vrai qu'il y a un proverbe dans le monde qui dit « rira bien, qui rira le dernier », mais ce proverbe-là, il n'est pas dans la parole de Dieu. On n'a pas à rire de ces choses. Pourquoi ? Parce que le salut, c'est quelque chose de sérieux. Oui, peut-être que l'Évangile, il est voilé pour vous, parce que vous avez négligé de vous en occuper. Ou alors vous vous en occupez d'une manière superficielle. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Je ne sais pas combien en France il y a de gens qui croient en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils ne croient pas Dieu. Vous avez compris la nuance ? Ils croient en un Dieu, mais ils ne croient pas ce qu'il dit. Et ils s'imaginent que ça suffit pour être en communion avec Dieu, pour faire la paix avec lui. Beaucoup de gens sont croyants. Vous discutez avec des gens, oui, moi je suis croyant, mais je peux vous dire que quand vous discutez un quart d'heure avec eux, quand vous regardez leurs doutes, leurs bigoteries, leur ânerie, leurs réponses, leur superficialité, vous voyez qu'ils ont négligé un si grand salut. Et nous, on n'est pas là pour négliger le salut. Ce soir, on est là, c'est sérieux. Vous savez, dans la Bible, il y a des commandements. Il y a les 10 commandements. Vous savez qu'il y a une Bible satanique. Est-ce que vous savez qu'il y a une Bible satanique ? Vous le savez ? Il y a une Bible satanique. Bible, ça veut dire le livre. Vous savez quel est le premier des commandements dans la Bible satanique ? En plus, on l'entend souvent. Fais ce que tu veux. C'est le premier commandement dans la Bible satanique. Fais ce que tu veux. Écoutez aujourd'hui ce qui se passe. Et les gens sont tout le temps en train de dire, moi je fais ce que je veux. Comme je veux. Et personne n'a à me dicter ce que je dois faire. Et bien ça, je peux vous dire que ça vient de l'enfer même. Après, il y a des gens qui disent, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, etc. Un peu de religion, c'est bien, on ne sait jamais. Moi, il y en a beaucoup qui me l'ont dit. En tant que pasteur, ah mais moi, la religion, j'en ai un petit peu, on ne sait jamais. Et puis si je meurs, je ne veux pas être enterré comme un chien, quand même, monsieur le pasteur. Moi, croyez-moi, je veux passer par l'église. Vous voyez, les gens, ils s'imaginent qu'ils s'occupent de leur âme en parlant de cette façon-là. Je peux vous dire que ça, c'est de la légèreté. Ils ont négligé de s'occuper du salut. Et mais c'est la question que je dois vous poser. Est-ce que vous vous occupez de votre âme ? Est-ce que la Bible nous demande de nous occuper de notre âme ? Quand est-ce qu'il faut s'occuper de son âme ? Tous les jours. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible ? Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. C'est écrit ? Deutéronome chapitre 4, verset 9. C'est écrit. Ce sont des choses sérieuses. L'éternité, c'est sérieux. On va passer l'éternité ou dans le paradis, enfin, ou dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ou dans des lieux de tourment. Vous comprenez bien que la parole de Dieu, elle est sérieuse. Ne négligez pas ce si grand salut. C'est pour ça que, vous voyez, Deutéronome chapitre 4, verset 9, « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. » On est compte ? Il parle au singulier, donc c'est personnel. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous veillez sur votre âme. Même si vous êtes mal entouré, même si vous êtes dans une mauvaise église. Est-ce que ça peut arriver d'être dans une mauvaise église ? Est-ce que ça peut arriver ? D'avoir un mauvais pasteur, tout ça. Oui, il faut être honnête. Il faut pas se fermer les yeux. Il faut être honnête. Eh bien, ça fait rien. Je suis mal entouré. Ma famille n'est pas croyante. Les gens avec qui je travaille se moquent de Dieu. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est comme ça, c'est déplorable, mais ça fait rien. Moi, je vais veiller sur mon salut. Je dois m'occuper de mon salut, pas d'une manière superficielle. Je vais comme on l'entend, des fois, moi, je me rappelle, je discutais avec un gars il y a quelques temps de ça. Et il me dit, mais vous faites la messe de minuit, vous? Ah, j'ai dit non. Ah, c'est pas bien. Moi, je fais la fête de minuit, me dit. Je vais à la messe de minuit tous les ans. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites après ? Oh, c'est tout bête. Qu'est-ce que vous faites après la messe de minuit ? Dites-moi la vérité. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Je vais regarder des films pornographiques. Et j'ai dit, mais c'est bien. C'est bien de faire la messe de minuit. J'ai dit, voyez, moi, la Noël, c'est tous les jours Noël. C'est tous les jours qu'on célèbre Dieu. Pensez à Dieu une fois par an, je ne sais pas si c'est sérieux. Vous croyez que c'est bien de s'occuper de Dieu une fois par an, une heure par an ? Moi, je fais la messe de minuit. Je pense qu'il y a 364 autres au jour où c'est bien aussi de s'occuper de son âme. Parce que la Bible dit, veille sur ton âme tous les jours. Les gens ne sont pas conscients de ces choses. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on chante ces cantiques. C'est pour ça qu'on a des réunions. C'est pour ça qu'on prêche sur cet évangile qui est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Et Dieu ne veut pas que vous périssiez. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus pour l'éternité. Quand vous lisez la Bible, ça fait peur. La Bible parle des tourments éternels, de ces enfants de malédiction. Vous vous rendez compte, la Bible parle des enfants de malédiction. Alors que tout ce qu'on a chanté nous rappelle que Jésus veut nous bénir. Dieu, il veut vous bénir. C'est sûr et certain. Jésus, il est mort sur la croix pour vous bénir. Et si vous êtes dans ces excuses, dans cet endurcissement, dans ces doutes, c'est que vous avez négligé votre salut. Mais la parole, on l'a lu, l'apôtre Paul le dit, mais la lumière brillera au sein des ténèbres. Et dès que vous ouvrez la parole de Dieu, et dès que vous dites au Seigneur, mais ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, moi je veux comprendre les choses spirituelles, il n'y a pas que les choses temporelles, les choses terrestres, les choses humaines, il y a des choses spirituelles, et si Dieu a dit, on l'a lu, la lumière brillera au sein des ténèbres, ce soir, vous pouvez avoir cette bénédiction. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire d'avoir l'espérance dans le cœur. D'avoir de l'espérance, une pleine espérance. Tout à l'heure, on parlait de ces qualificatifs. Avoir une pleine espérance, une pleine consolation, une pleine récompense, une pleine paix. Et Jésus dit, mais vous avez tout pleinement en lui. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Vous croyez que Dieu veut qu'on ait une année maudite? Oui, l'année sera maudite pour les gens qui ne veulent pas de la grâce de Dieu. Mais pour les gens qui veulent de la grâce de Dieu, ça sera une année bénie. Choisissez, c'est écrit dans la Bible, choisissez la bénédiction. D'ailleurs, ce qui est ajouté après, il est dit, choisissez le bien ou le mal. La bénédiction ou la malédiction. Quelqu'un dit, non mais choisir la malédiction, mais n'importe quoi, moi je ne vais pas choisir. Moi je veux la bénédiction. Et pourtant, ce qu'ils font indique qu'ils sont en train de choisir la malédiction. Si je choisis de vivre dans le mensonge, je choisis quoi? De vivre dans la malédiction. Si je choisis de vivre dans la vérité, je choisis la bénédiction, etc., etc., etc. C'est ça, la lumière brillera au sein des ténèbres, et je vais lire la parole de Dieu. Oui, les ténèbres ne régneront pas dans ma vie. C'est ça, la lumière. Je ne veux pas de ténèbres dans ma vie. La Bible dit, vous êtes des enfants de ténèbres. Moi, j'ai pas envie d'entendre un jour, tu as été un enfant de malédiction. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Même si le contexte, je le répète, même si le contexte n'est pas favorable, je vous donne juste un témoignage. Le témoignage de l'eunuque éthiopien. Vous connaissez cet eunuque éthiopien? Il était ministre des finances d'Éthiopie. C'est le premier noir qu'on voit se convertir dans la parole de Dieu. Il vient de Candace. Candace, Jérusalem, si vous regardez sur une carte, ça fait 3000 kilomètres. Malgré le fait qu'il était ministre, il n'y avait pas encore de Mercedes climatisée. Donc il a fait 3000 kilomètres, mais tenez-vous bien, pour monter à Jérusalem, il a fait 3000 kilomètres pour aller rencontrer Dieu. L'église de Jérusalem était en plein réveil. Oui ou non? Est-ce qu'il y avait un réveil à Jérusalem? Il y avait un réveil à Jérusalem. Et lui, il repartait, il n'a pas rencontré l'église. Il repartit, mais malgré le fait qu'il n'ait pas rencontré l'église, peut-être il a été au temple, il a vu des religieux avec des belles robes, etc. Mais il n'a pas rencontré Jésus-Christ. La suite nous le prouve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais si c'est ça, on m'avait parlé qu'il y avait des vrais chrétiens, j'ai vu de la tradition, j'ai vu de la religion, j'ai vu du faste, j'ai vu beaucoup de tralala, mais je n'ai pas rencontré ce Seigneur. Et il repartait, qu'est-ce qu'il faisait dans sa Mercedes? Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'était malgré tout procuré le livre du prophète Ésaïe. Et dans un char. Les routes étaient quand même un petit peu plus cabossées qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il était certainement dans un très beau char, ça on en convient, il lisait, il ne pouvait pas s'empêcher, il était allé à Jérusalem pour adorer, et Dieu a vu son cœur, et quand il est reparti avec ce que nous on pourrait dire la Bible. Et Dieu a dépêché un ange a dépêché Philippe pour que Philippe aille annoncer l'évangile à cet homme. Vous voyez, le contexte qui aurait pu être favorable, ne l'était pas. Et cet homme voulait s'occuper de son âme. C'était un ministre. Mais qu'on soit ministre ou qu'on soit clochard, bien sûr qu'il y a une différence certainement de salaire, mais au niveau du salut, il n'y en a pas. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, il y a une différence entre riche et entre pauvre? Non, au niveau de nous, oui, bien sûr. Mais en plus, ça tient debout. Le riche et le pauvre se rencontrent, l'Éternel a créé l'un et l'autre. Tout ça, c'est normal. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut sauver le pauvre, Dieu veut sauver les riches. Dieu veut sauver les intellects, Dieu veut sauver les analphabètes, etc. Une chose est certaine, ce ministre, il cherchait Dieu, le contexte n'a pas été favorable, mais il n'a pas négligé le salut de son âme. Et moi, quand quelqu'un me dit, oui, mais vous savez, je suis pas dans une bonne église, je dis, écoutez, vous avez la même Bible que nous. Vous avez le même Seigneur que nous. Et que quand on veut, on trouve. Et Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et si vous vous mettez à lire la Bible, je peux vous dire que les ténèbres ne régneront pas. Il y a des gens qui vont dans les églises, ils sont toujours dans le vrac. Toujours en ténébré. Toujours dans la défaite. Mais parce qu'ils sont pas sérieux. On me dit, mais c'est une question de sérieux? Oui, c'est une question de sérieux. C'est une question d'honnêteté. C'est impossible que vous vous passiez un jour devant Dieu et que vous lui dites, écoute, Seigneur, je lisais ta parole, je comprenais rien. Non. C'est parce qu'on veut pas comprendre. La Bible dit qu'il nous éclaire. Le Seigneur, il est la lumière. Il est la lumière du monde. Et si quelqu'un dit, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me montres, quand nous lirons, eh bien, nous comprendrons. Oui ou non? C'est pas possible. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est que vous négligez votre salut. Vous n'échapperez pas en plus. Si vous voulez échapper à la colère de Dieu, à l'enfer, il vous faut absolument vous mettre en tête de prendre ces choses au sérieux, dire voilà, moi je vais faire comme l'unique Éthiopien. Il comprenait pas, mais il comprenait pas. Et en plus, il a été humble. Il aurait, quand Philippe s'est approché, Philippe, c'était un simple pasteur, un simple évangéliste, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il aurait pu dire, comme certains ministres aujourd'hui, mais attends, moi, je suis le ministre de la reine de Candace, non, mais de quoi je me mêle? Il a dit, comment je comprendrai si personne ne me guide? Et il a invité le pasteur. C'est pas une belle attitude, ça? Vous voyez l'humilité? Et voilà, et ils ont discuté. Et à un moment donné, cet homme, il a donné son cœur à Jésus. Il a compris que Jésus-Christ était venu sur la croix. Il a compris toute l'œuvre du calvaire. Et il a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Cet homme, de suite, il a été bouleversé. Il a été bouleversé, ils ont rencontré un point d'eau, et il a dit à Philippe, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Voyez, il n'a pas négligé son salut. Il a été sérieux, même si je vous dis le contexte n'était pas favorable. Quelqu'un peut aller demain dans une ville et ne pas rencontrer l'église, la véritable église. Mais je peux vous dire que s'il cherche Dieu, il le rencontrera, église ou pas. Il n'y a personne qui se trouvera un jour devant Dieu qui va lui dire, écoute Seigneur, je t'ai cherché toute ma vie et je ne t'ai pas trouvé. Bien sûr que ça ne se présentera pas. Mais vous comprenez bien que c'est impossible. Moi, quand quelqu'un me dit, mais j'ai cherché, monsieur Gros, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je dis, mais vous avez pas dû chercher longtemps. Parce que quand on cherche, on finit par trouver. Et c'est se moquer de Dieu. C'est ça, ne pas être intègre. Jésus est catégorique. Si tu cherches, tu trouveras. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous pouvez dire alléluia. Ce soir, vous pouvez dire, moi, je vivrai dans la lumière. Il est la lumière. Et en plus, je peux, moi, de surcroît, par la grâce de Dieu, devenir également une lueur. C'est écrit. Vous êtes aussi la lumière du monde. Est-ce que vous rendez... En plus, on peut participer à cette immense bénédiction en devenant des instruments de grâce pour les gens qui sont perdus. Et tout ça, c'est grâce à la croix. Le nuque éthiopien, il a été touché par la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ au calvaire. Il est dit dans la Bible qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes. Comment? Par la folie de la prédication. Donc par la folie de la croix, par la prédication de la croix. C'est complètement stupide. La Bible dit que c'est un scandale pour les juifs. Un scandale pour les juifs. Et pourtant, il y a plein de juifs qui se convertissent. C'est un scandale. Pourquoi? Parce que la loi divine, la parole de Dieu dit que maudit est celui quiconque est mort sur le bois. Alors il dit, ben comment Jésus peut être le sauveur du monde s'il a été maudit par Dieu puisqu'il a été crucifié? C'est écrit ça, maudit quiconque est pendu au bois? Oui. Donc pour eux, c'est impossible que Jésus soit le sauveur puisque Dieu l'a maudit. Mais quand ils cherchent, eh bien, ils vont tomber sur un texte où ils vont se rendre compte que Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est pour ça qu'il y a plein d'assemblées messianiques, même en France, dans tous les pays du monde, il y a des assemblées qu'on appelle des juifs messianiques. En Israël, il y a des églises. On vient d'envoyer un autre missionnaire à Tel Aviv parce qu'il y a un groupe de chrétiens comme nous, à Tel Aviv, il y a des frères, des chrétiens partout en Israël. C'est pas facile pour eux, parce qu'ils sont persécutés. Mais il y a de véritables chrétiens. Donc la question qu'on doit se poser, comment obtenir le pardon des péchés? Eh bien, demandez-lui pardon. Demandez-lui pardon. Pas du bout des lèvres, en disant, oh, c'est pas bien ce que j'ai fait. Non, demandez-lui vraiment pardon. Et vous obtiendrez le pardon des péchés. Ne négligez pas le salut de votre âme. Et si vous lisez la parole de Dieu, sérieusement, le Seigneur, il vous éclairera. Vous savez, je me rappelle, j'étais jeune pasteur et j'avais rencontré une situation qui me troublait. J'étais jeune, j'avais pas beaucoup de connaissances. Et quelqu'un m'avait dit, oui, un chrétien, il peut être maudit. Un sorcier peut jeter des sorts à un chrétien peut être affecté par la sorcellerie. Moi, dans ma tête, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Et je lisais. Et j'ai lu. Et je suis tombé, enfin, je suis pas tombé, parce que je lis. Je suis tombé sur ce proverbe 26, on peut le lire, hein, au verset 2. Mais c'était la réponse. Pourquoi? Parce que je cherchais. Je voulais une réponse. J'en avais besoin et je savais très bien qu'un chrétien ne peut pas être touché par la sorcellerie, à moins qu'il désobéisse à Dieu. Ça, c'est clair. Oui, il peut donner accès au diable. Mais un chrétien qui obéit, et j'ai eu la réponse le soir même ou le matin. Je lisais le livre des Proverbes, verset 2, 26 verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. » Et c'est ça que ça veut dire. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et la malédiction, elle ne peut pas atteindre quelqu'un qui est sous le sang du Seigneur. Vous le croyez, ça, ou vous le croyez pas? C'est ça la parole de Dieu. Et vous savez, quelques jours après, tenez-vous bien, même plus, ou le lendemain, on me demande, il y a une dame qui venait à l'église, qui avait le cancer, qui avait une quarantaine d'années, elle était en phase terminale. Et elle me dit, monsieur, bon, il faut venir à la maison, venez prier pour moi. Alors je vais chez elle, alors on parle, tout ça, c'était archi compliqué. Mais elle a donné son cœur au Seigneur. On a prié. Et quand je partais, écoutez bien, quand je partais, son père rentre, et il me dit, qui êtes-vous? Mais je dis, écoutez, je suis le pasteur. Ah, priez pour moi, je suis malade, un vieux paysan, là. Je suis malade, priez pour moi. Je prie pour lui, pour que Dieu le guérisse, ça a été vite fait. Et quand j'ai prié pour lui, j'ai perçu les ténèbres sur cet homme. Mais vraiment les ténèbres. Et quand j'ai fini de prier, je dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je suis paysan, je suis agriculteur. Et sa fille, elle me dit, dis-y, je rappelle. Non, papa, t'es pas riche, dis-y ce que tu fais. Je suis agriculteur, tais-toi. Alors ils ont commencé à se rapper tous les deux. Moi, je dis, mais c'est pas grave. Et au bout de je sais pas moi, d'une minute, c'est long une minute quand ça... Dis-y que t'es un sorcier. Ah, j'ai dit, monsieur, si vous faites de la sorcellerie, cette prière ne sera pas exaucée tant que vous ne vous repentirez pas. Il m'a regardé avec des yeux vraiment de sorcier. Vraiment. Je suis rentré à la maison et le lendemain, sa fille m'appelle. Elle me dit, monsieur Gou. Elle me dit, mon père, c'est un sorcier. Tous les gens à qui il a jeté des sorts, ils sont morts. Et il m'a dit qu'il allait vous tuer. Oh, j'ai écouté. Si Dieu veut me reprendre, ça m'étonnerait qu'il veuille me reprendre de cette façon. Mais ne vous inquiétez pas, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et je me rappelle, j'ai raccroché le téléphone et ça ne m'a même pas affecté. Et un mois après... Un ami de cette femme qui l'avait amené à l'église m'appelle et me dit, monsieur Gou, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, cet homme, il est mort. Et je crois, voyez mes frères et sœurs, que la lumière, elle brille. Que quand on veut, Dieu nous parle. Dieu nous répond. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et l'évangile, il est voilé pour les gens qui ne s'occupent pas de leur salut. Pour les gens qui sont légers. Avant-hier, je discutais avec quelqu'un son père a fait un AVC, il était en bras, qu'il a cru qu'il allait mourir. J'ai dit, mais vous avez pensé à lire la Bible dans la nuit? Parce qu'il a passé une nuit blanche, non, j'ai même pas pensé. Et je crois quand même que bon, on n'est pas des légalistes, mais il y a quand même un minimum. La parole de Dieu, c'est du pain, oui ou non? L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais frères et sœurs, ne négligez pas votre salut. C'est sérieux le salut de votre âme, oui ou non? Et si vous cherchez, vous trouverez. Ou alors vous faites Dieu menteur. Et ça, je pense que vous n'allez pas vous enrichir si vous faites Dieu menteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est fou l'homme, inconscient, ignorant, ce que vous voudrez, mettez le mot le moins fort, ça vous ira très bien, mais il est fou l'homme qui fait Dieu menteur. Si Dieu a dit « demandez et vous recevrez », demandez, et Dieu vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si vous aimez la lumière, vous la recevrez. Mais vous pouvez aussi, c'est triste, mais c'est écrit dans l'Évangile des gens, qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il y a des gens qui préfèrent les ténèbres. Si vous préférez les ténèbres, c'est sûr que les ténèbres régneront. Mais si vous préférez la lumière, les ténèbres ne régneront plus. Et Dieu vous éclairera, et l'Évangile ne sera pas voilé, ça sera une source de bénédiction. On ferme les yeux quelques instants. Tu nous permets, Seigneur, de venir dans ta maison. Nous ne voulons pas négliger un si grand salut. Nous ne voulons pas faire partie de cette foule innombrable d'hommes et de femmes chez qui les ténèbres règnent toujours. Nous voulons faire partie de ceux chez qui la lumière brillera toujours, Seigneur. Parce que nous ouvrirons ta parole, et ta parole est une lampe à nos pieds, et tu nous éclaireras au fur et à mesure de nos besoins. Nous voulons pouvoir dire, comme le roi David, que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours, malgré les épreuves, les difficultés, malgré les moments difficiles, les côtes à monter, Seigneur, qu'importe. Oui, nous croyons que la lumière nous accompagnera toujours. Tu nous as vus ce soir dans cette réunion. Oui, ces croix ont été dressées, mais sur ta vie, Seigneur, toi, tu prenais notre malédiction pour nous donner la bénédiction. Alors que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Vraiment, que ton nom soit béni. Amen. Nous restons recueillis. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi, j'ai besoin de faire une expérience avec Dieu. J'ai besoin. J'ai besoin de m'appliquer. Je néglige les choses spirituelles ou j'ai un problème, un autre. Vous pouvez ne pas négliger, mais peut-être il y a un problème. Seigneur, moi, je veux faire une expérience avec toi. Je me souviens, moi, de ce soir où je pensais que j'étais pas un bon mari. Et il y avait eu une exhortation. C'était la première fois de ma vie que j'allais à l'imposition des mains. Et Dieu m'a béni pour que je devienne un meilleur mari. Parce que j'ai pris au sérieux les enseignements. Alors, je vais pas faire d'imposition des mains, mais il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas négliger cette affaire. C'est pas la construction d'une maison, c'est pas l'achat d'une voiture, c'est pas, je sais pas moi, un nouveau travail, ça, il faut pas le négliger bien sûr. Mais c'est pas grave si vous le négligez un peu, tandis que le salut, ça se néglige pas. Alors il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi je veux faire une expérience avec mon Seigneur. Eh bien levez-vous votre place et je prierai pour vous. Et Dieu ne vous laissera pas. Dieu ne vous laissera pas. Si vous lui demandez, il vous donnera. Mais demandez avec foi. On va prier. Notre Père qui es aux cieux, tu es ce Dieu qui bénit. Tu es ce Dieu qui envoie la lumière, tu es ce Dieu qui envoie la paix. Tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour donner toutes ces choses, pour donner ta grâce, pour donner ta miséricorde, pour donner ton pardon. Et Seigneur, tu vois, Seigneur, cet auditoire, tu vois la personne qui s'est levée. Eh bien Seigneur, fais-lui grâce afin qu'elle puisse dire et vivre que les ténèbres ne règnent pas toujours, mais que malgré ces ténèbres, oui, dans le monde qui s'épaississe, dans nos cœurs, ta lumière brille. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.